Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Après 9 millions de kilomètres et 11 000 heures de vol, François Suchel, pilote de ligne, a tout vu des beautés du monde, mais à 12 000 mètres d'altitude. Paris-Canton, aller-retour, c'est son job, sa ligne favorite. Aux commandes de son vol long courrier, confiné dans le cocon pressurisé de son cockpit, ignorant les mœurs et les coutumes des pays survolés, qu'a-t-il appris pendant toutes ces années de la vie de ceux d'en bas ? François a l'impression d'avoir parcouru le monde sans le voir. Poussé par le désir de vivre une réalité plus terrestre, François décide de découvrir l'itinéraire vu du ciel en vélo. Il a parcouru plus de 10 000 km à travers 9 pays et pédalé pendant 8 mois. Je l'ai rencontré sur le festival du Grand Bivouac à Albertville, lors de la projection de son film qui relate son périple, ses joies, ses peines. Allez, bah alors là on est au Grand Bivouac, peut-être que tu vas commencer par m'introduire le lieu et me dire ce que tu es venu y faire aujourd'hui.
Alors le Grand Bivouac, eh bien, c'est un festival de voyage. Je crois que c'est le plus gros festival de voyage, de films et de rencontres en France. Et donc je suis venu y présenter mon film qui s'appelle « Sous les ailes de l'hippocampe » et qui retrace un voyage à vélo que j'ai fait voilà, en suivant la ligne aérienne du vol d'Air France entre Paris et Canton que j'ai fait pendant de nombreuses années en tant que pilote de ligne.
Ok, donc c'est bien, ça pose le décor. On a un pilote, François. Donc François, bonjour François.
Bonjour.
Donc toi François, tu as choisi de voyager par la voie terrestre, par opposition peut-être à la voie aérienne. Mais on va d'abord revenir aux origines. Donc qui est François et quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené peut-être déjà à devenir pilote? Est-ce que c'était déjà le rêve du voyage que tu nourrissais enfant qui a voulu qui t'a dirigé dans cette direction?
Alors j'ai eu envie de devenir pilote assez jeune, je pense vers l'âge de 15 ans. Personne dans ma famille n'était pilote, donc c'est vrai que c'était certainement une sorte de fantasme, de projection dans ce métier auréolé des héros de l'aéropostale, de Saint-Ex, etc. Moi, ce que je projetais là-dedans, c'était peut-être en effet un désir d'ailleurs. Peut-être plus que l'envie de la machine et d'avoir entre les mains un gros avion, parce que ça, je savais pas du tout ce que j'étais et j'imaginais pas si ça pouvait être finalement intéressant ou pas. Donc c'était peut-être plutôt, oui, ce désir de voyage et d'ailleurs qui au départ m'a poussé vers ce métier.
Comment est-ce que tu décrirais ce métier de pilote ? C'est quoi aujourd'hui être pilote ?
Alors aujourd'hui, être pilote, c'est plein de choses. Ça dépend de quel point de vue on se place. Sur un certain point de vue, c'est un métier très technologique, où on pilote des gros avions qui sont quand même complexes. Donc il faut apprendre à maîtriser cette technologie qui évolue sans cesse. Donc c'est un peu à l'image du monde finalement, avec des évolutions permanentes, des remises en question aussi permanentes. C'est un métier, le deuxième aspect très important, c'est un métier où l'humain compte beaucoup, puisque à chaque vol, on vole avec des gens différents. Et donc, mois par mois, je rencontre peut-être 200 personnes nouvelles dans mon métier, entre l'équipage commercial et puis le copilote avec qui je vais voler, que je connais pas. Et donc, il y a cet aspect de rencontre. Alors évidemment, il y a aussi un certain formatage. Il faut qu'on soit un petit peu dans un moule commun, sinon avec des conventions de travail, des normes. Mais enfin, c'est quand même très enrichissant au niveau des rencontres. Et puis après, il y a le troisième point, c'est que être pilote, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie parce qu'on est un peu des vagabonds de luxe. On se déplace comme ça tout le temps. On est de passage dans les escales, mais aussi on est de passage un peu chez soi. Et donc, quand on fait le choix d'être pilote, il faut appréhender aussi cette dimension qui n'est pas toujours facile à vivre, hein, surtout quand on a une famille, puisque à peu près la moitié du temps, on vit en dehors de chez soi.
Quand tu dis que tu pilotes des gros avions, c'est les Boeing dans lesquels on se retrouve quand on traverse la Terre pour aller en vacances et en voyage ?
Ben voilà, par exemple, des Boeing, des Airbus, des gros avions de ligne. Moi, j'ai commencé ma carrière sur Boeing 737, donc un avion, un vieil avion maintenant, Boeing 737-200. On appelait ça le porte-clés. Bon, pour les pilotes de ligne, c'est le porte-clés, mais enfin, c'est déjà un gros avion qui fait une centaine de places. Et puis après, j'ai fait de l'Airbus A330 et A340. Donc là, c'est des gros porteurs. Un A340, c'est un quadriréacteur long courrier. Et puis je suis revenu sur moyen courrier en tant que commandant de bord sur Airbus A320. Quand on commence sa carrière de pilote, on est d'abord copilote. Ça ne veut pas dire qu'on pilote pas l'avion, hein, on pilote aussi l'avion, mais la responsabilité ultime et la prise de décision finale appartient au commandant de bord. Et c'est le commandant de bord qui juridiquement est responsable de l'avion et des passagers. Okay. Et du chargement.
Et alors, comment ça se passe, un emploi du temps de pilote? Donc, tu passes combien de temps dans le ciel? Après, quand tu arrives, tu as quelques jours de repos? Ou comment va se passer une semaine? Voilà. Parle-moi de la semaine du pilote.
Eh ben, bon, sur moyen courrier, donc la semaine dernière, par exemple, lundi, j'ai fait un aller-retour Moscou, un aller-retour du matin. Souvent, on a des cycles comme ça, soit du matin, soit de l'après-midi. Donc là, c'était quatre rotations, en fait, d'affilée avec des levées très tôt. Un aller-retour Moscou. Le lendemain, j'ai fait trois étapes. On est parti à Copenhague, on a été dormir à Nantes. Le surlendemain, Nantes, aller-retour Genève, aller Barcelone. Donc quatre étapes ce jour-là. Et le surlendemain, Barcelone-Paris et un aller-retour Naples. Donc tu vois, bon, sur moyen courrier, c'est pas forcément très très sexy. Il y a quand même beaucoup de densité dans les journées. Le côté intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pilotage. On pilote beaucoup plus l'avion que sur long courrier. On est plus affûté aussi. Sur long courrier, c'est des rythmes différents. On a 3, 4, voire 5 rotations dans le mois où à chaque fois, tu fais un long vol, un temps d'escale qui peut être de 24 heures, 48 heures, voire parfois 72 heures. Ça dépend. Et puis, le vol retour avec plusieurs jours de repos derrière puisque en long courrier, il y a quasiment systématiquement un vol de nuit. Si l'aller est de jour, le retour est de nuit. Parce que l'avion, lui, il vole toujours. L'avion ne s'arrête jamais, sauf pour faire l'entretien. Mais ça, on a parfois du mal à le concevoir. Mais un avion, ça vole 18 heures par jour, 19 heures. Il est exploité au maximum. Donc lui, l'avion, pour être bien et pour bien fonctionner, il faut qu'il vole. L'homme, il faut qu'il se repose un peu de temps en temps. On prend les avions, on dématricule, on monte dans un avion, on fait notre étape. Et puis après, on en a un autre au retour.
On va redescendre sur Terre, donc tu es aujourd'hui au Grand Bivouac pour projeter ton film, donc qui est, lui, une aventure à vélo. Et qu'est-ce qui a fait que tu décides de quitter les airs pour te retrouver sur la Terre?
En fait, pendant des années, donc, j'ai vu la Terre vue du ciel, j'ai parcouru le monde, comme je le dis dans mon récit de voyage, qui est paru donc en juin aux éditions Guérin. À force de parcourir la Terre sans le voir, j'ai eu envie d'aller au ras du sol pour toucher un peu le monde. D'abord, me réapproprier l'espace, puisqu'un avion, tu pars d'un point A à un point B, et finalement, tout l'espace de transition entre les deux reste un mystère. Et quand on est pilote et que on voit certes des paysages grandioses, mais aussi toutes les balafres de la Terre à 10 000 mètres d'altitude, on se pose forcément des questions sur ces espaces qu'on survole et qu'on a envie d'aller un petit peu toucher. Et donc, ce voyage est parti de cette nécessité de reconnecter un petit peu les liens avec la Terre, de me reconnecter au monde. Et donc, le meilleur moyen finalement que j'ai trouvé, c'était de suivre cette ligne aérienne que je connaissais vue du ciel. Voilà l'idée de base du voyage. Après, il y avait aussi le désir d'aventure, la volonté de vivre une grande aventure. J'ai pendant de nombreuses années rêvé des aventures des autres. Et je crois aussi peut-être que en faisant ce métier de pilote, je rêvais moi-même d'aventures. Et peut-être qu'il n'a pas tout à fait répondu à mes demandes. Pour le bien des passagers, il y a de moins en moins d'aventures quand même dans l'aviation. Ça devient un peu plus normalisé, on va dire. Et c'est vrai que c'est un métier qui est aussi très, très organisé, très réglementé, très normé. Et donc, j'avais envie de prendre le contre-pied de tout ça.
te retrouver sur les routes. Tu as profité de tes vacances. Comment est-ce que tu as monté ce projet d'itinérance sur la voie terrestre?
Alors j'ai pris en effet 18 mois de congés sans solde, donc c'est des grandes vacances. Il y a eu ce voyage-là de Canton à Paris qu'on a terminé, que j'ai fait en grande partie seul, mais qu'on a terminé en famille. Et après, j'ai fait un deuxième voyage en fait en Polynésie en famille pendant plusieurs mois aussi. Donc au global, je me suis arrêté un an et demi.
Et comment est-ce que tu as monté ton projet ?
Oh bah ça s'est fait assez naturellement et progressivement avec ma femme bien sûr hein, puisque
donc l'aventure s'est fait en famille, vous étiez à plusieurs à partir.
Non, je suis parti seul, mais on a fait un voyage en équipage à distance. Ma femme était à la maison avec les enfants, donc c'est vrai qu'elle elle a accepté que je parte vivre cette aventure et on s'est pas vu pendant plusieurs mois, mais on a fait le voyage ensemble. Voilà, ses hauts étaient mes hauts, ses bas étaient mes bas, et y avait une interaction permanente entre nous et entre nos états d'âme, si j'ose dire. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier par rapport à beaucoup de voyageurs qui soit partent en couple, soit partent seuls, mais qui sont tout seuls dans la vie, où là c'est très différent.
Mais tu as réussi quand même à garder le lien, donc aujourd'hui avec les moyens de télécommunication, on peut garder à distance un lien quasi permanent?
Oui, c'est tout à fait possible. Bon, là, on s'envoyait des SMS, en Chine notamment. Ils sont très connectés, les Chinois. Ils ont le téléphone passe quasiment partout. Donc, on s'envoyait des SMS, on se parlait régulièrement sur Skype, et puis on se téléphonait. En cas d'urgence, il y avait toujours cette possibilité de téléphoner. Mais c'est vrai que moi, je voulais pas partir en coupant les ponts. C'était pas du tout mon intention. Et d'ailleurs, ce voyage n'était pas une fuite, une espèce d'élucubration égoïste en me disant j'en ai marre, j'ai envie de prendre ma liberté, etc. Je pense que ça venait vraiment d'un besoin profond de vivre l'aventure que ma femme a compris et qui s'est manifesté en effet de cette manière, mais c'était pas forcément une jouissance brute d'être loin de mes proches.
Et le projet de documentaire, donc de film que tu présentes aujourd'hui, c'était quelque part pour partager cette expérience avec ta famille et ta femme, ou est-ce qu'il y avait un autre projet derrière ? Parle-moi de ton documentaire aujourd'hui que tu présentes.
Ben, en fait, j'ai aussi une activité de photographe depuis longtemps, et c'est vrai que cette fibre créative, je pense que j'ai en moi, c'est un peu le pendant de la rigueur procédurière des cockpits. J'ai un métier qui laisse peu de place à la créativité, où on me demande pas d'inventer des trucs sortis de nulle part, hein, heureusement. Et donc voilà, moi j'ai besoin d'avoir de m'inventer un petit peu des projets, de faire des choses qui ont du sens. Donc j'ai fait des travaux dans le domaine de la photographie. Pendant plusieurs années, j'ai publié un livre de photos qui s'appelle Nomade du ciel en 2007. Et puis, donc, quand je suis parti pour ce voyage, en effet, j'avais aussi l'intention d'en ramener quelque chose. Je suis parti avec donc une caméra, un appareil photo et puis un carnet de notes. Et je savais pas. Là, c'est vrai que l'aspect film documentaire, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je n'avais jamais fait de film, donc je connaissais pas. La photo, en revanche, c'est un domaine que je connaissais mieux. L'écriture, j'ai toujours aimé écrire, mais j'avais jamais publié de livre. Donc là aussi, c'était quelque chose de nouveau. C'était un peu une aventure dans l'aventure. Vivre l'aventure, faire un voyage, c'est une chose. Essayer d'en ramener un témoignage, c'est autre chose. Mais c'est passionnant.
Et c'est pas évident, parce que quand on voyage, c'est bien de voyager léger, hein, en vélo notamment. Et là, quand tu t'encombres d'une caméra, et tout le problème des batteries, de l'électricité, comment est-ce que tu vas gérer tout ça ?
Oui, ça se fait assez naturellement. J'étais quand même dans des endroits, j'ai suivi des pistes, donc j'étais dans des endroits où il était rare que je ne croise pas un village dans une journée ou sur deux jours, surtout qu'en vélo on fait quand même des kilomètres, moi je faisais à peu près 100 kilomètres en moyenne par jour. Donc je croisais régulièrement des endroits où je pouvais recharger les batteries. J'avais toujours deux batteries, que ce soit pour l'appareil photo ou pour la caméra. Et donc dès qu'il y avait une batterie qui était vide, que je m'arrêtais à midi pour déjeuner, s'il y avait un endroit où il y avait de l'électricité, cac, je branchais pour recharger. Alors j'ai dû me faire avoir une ou deux fois où j'avais plus de jus nulle part, mais globalement j'arrivais à gérer un petit peu ça. Après, eh bien, c'est sûr que le matériel vidéo, tout ça, ça fait du poids en plus. Mais bon, c'est le prix à payer si on veut ramener quelque chose et puis être là aujourd'hui à te parler.
Mmh. Pendant qu'on se parle, il se passe un truc, c'est que dans la salle, il y en a qui sont assis en train de regarder ta projection. Donc t'en profites pour te libérer et venir faire cette interview. Donc qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans la salle? Qu'est-ce que les gens sont en train de voir?
Eh bien là, ça fait à peu près 30 et 20, 50 minutes. Ben, et là, ils arrivent au Kazakhstan. Là, voilà, on vient de passer un point crucial du voyage qui a été une arrestation que j'ai vécue à Emin, une ville qui est pas très loin de la frontière du Kazakhstan, où je me suis arrêté dans cette ville en fait interdite aux étrangers. Et donc ils m'ont fouillé. Ils ont trouvé un GPS dans mes affaires. Et dans cette province de l'ouest de la Chine, hein, qui s'appelle le Xinjiang, un étranger avec un GPS, c'est un espion. Voilà. Et donc, ça a duré 12 jours quand même. À un moment un petit peu difficile parce que c'était la fin de la traversée de la Chine. Et que donc, une semaine après, je retrouvais ma femme et mes enfants à Almaty. Puisque donc, on s'est vus au milieu du voyage, au bout de 3 mois. Et donc, c'était un peu le coup près, la grosse tapette derrière la tête que cette arrestation qui arrivait au moment où j'étais en plein élan comme ça de liberté et d'exaltation d'avoir mis la Chine derrière moi. Voilà, donc là, dans la salle, ils arrivent au Kazakhstan et dans cette deuxième partie du film et deuxième partie du voyage qui se passe à une saison meilleure, qui se passe au printemps et ensuite en été, et où je découvre les immensités des steppes qui sont des paysages merveilleux avec des gens bienveillants et accueillants et dont je garde un très bon souvenir.
Donc ce film raconte ton parcours intégralement, du point A au point B, du départ à l'arrivée.
Voilà, tout à fait. Après, c'est un film, ça raconte un petit peu un chemin initiatique, hein, ce que j'ai appris pendant ce voyage. Et puis, c'est aussi un film très en sensation, en évocation. C'est pas du tout un film bavard où on va nous raconter des choses, où on va se documenter sur tel ou tel endroit. Donc, faut pas aller voir ce film pour ça. Par contre, c'est un film d'émotion où le but, c'est vraiment d'emporter le spectateur sur sur mon porte-bagages et de le faire voyager. Après, pour en savoir plus, c'est aussi pour ça, et puis parce que j'aime écrire, que j'ai écrit un livre qui est plus, enfin qui est un mélange de descriptions et aussi de réflexions sur le voyage et qui complète assez bien le film.
Alors cette réflexion sur le voyage, c'est une question que j'aime bien poser. C'est quoi pour toi voyager? Comment est-ce que tu raconterais à tes enfants qui te diraient, papa, ça veut dire quoi voyager? Qu'est-ce que c'est qu'un voyageur?
Ben, le voyage, pour moi, c'est une expérience, déjà. Et puis moi qui ai beaucoup voyagé, en fait, je dis j'ai parcouru le monde sans le voir, mais c'est vrai qu'en 20 et quelques années de pilote, j'ai quand même été un peu partout, enfin dans beaucoup d'endroits. Et donc pour moi, voyager, c'est prendre son temps. Déjà, c'est vivre des expériences. C'est ne pas aller dans des spots. C'est aller dans des endroits où personne vous attend, où il n'y a pas de structure prévue ou d'accueil, et où c'est souvent dans ces endroits qui n'ont aucun intérêt qu'on vit des choses intéressantes. Moi, je l'ai vécu sous la ligne aérienne, puisque je suivais cette ligne qui n'est pas sur des parcours touristiques. C'est vrai que le paradoxe un petit peu aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de gens qui voyagent à vélo et du coup se recréent un petit peu des routes, des routes fréquentées, des spots ou des endroits ou des pays où il faut aller. Alors certes, l'espace d'aventure reste encore très grand, mais moi ce que j'ai bien aimé dans cet itinéraire, c'est que j'ai débarqué dans des bleds parfois un peu sordides, il est vrai, parfois magiques, mais où finalement il n'y avait jamais personne qui passait. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que il n'y a pas de structure, il y a cette curiosité, il y a cette spontanéité des gens vis-à-vis de vous, et voilà, et c'est tout le problème du tourisme de masse tel qu'il se pratique aujourd'hui, c'est que bien souvent on va dans des endroits qui sont de plus en plus aménagés et qui finissent par être un peu dénaturés, et on se tire un peu une balle dans le pied, puisque un endroit est sympa quand il est peu fréquenté, et même le plus bel endroit du monde, quand il est surpeuplé, ça devient invivable.
Et donc tu as réussi à garder ce fil conducteur, cette voie aérienne, tu as réussi à voyager, donc les pieds sur terre, la tête dans le ciel, tu regardais un petit peu ce qui se passait au-dessus de toi, tu essayais de les voir, ces avions dans lesquels tu aurais pu être.
Oui, les avions, c'était mes meilleurs compagnons de voyage finalement, et je me suis rendu compte que dans les moments un peu de doute, puisque forcément il y en a eu, c'était pas évident de gérer l'éloignement avec la famille, etc. Il y avait de la fatigue physique, il y avait tout ça. Eh bien, ces avions qui passaient dans le ciel, souvent ils me raccrochaient à mon projet. Je savais pourquoi j'étais là. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important que le voyage ait du sens. Je pense que ça aurait été peut-être plus difficile de partir simplement comme ça, sans plan, sans avoir une intention précise qui ait du sens, parce que cette ligne aérienne, les avions qui rentraient vers la France, eh bien ils amenaient mes pensées avec eux vers ma famille, et puis ceux qui partaient dans l'autre sens, d'où je venais, c'était mon éternel désir d'ailleurs qui véhiculait comme ça dans le ciel.
Et où s'est arrêté ton voyage? À l'aéroport?
À l'aéroport, voilà. Je suis parti de l'aéroport de Canton et je suis allé jusqu'à l'aéroport de Canton, de Paris, pardon, à la cité des navigants, en fait, de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Et t'as retrouvé tes collègues, t'es arrivé en vélo, ils t'ont reconnu?
Oui, alors bon, je suis arrivé le 2 septembre, c'était le jour de la rentrée, donc évidemment, plein de gens étaient pris pour d'autres choses, mais il y avait une petite troupe qui était là pour m'accueillir et c'était sympa, ouais.
Et depuis, donc, tu as repris ton boulot et tu continues à refaire le même trajet, mais vu du ciel.
Voilà. Alors là, maintenant, en ce moment, je fais plus vraiment le même trajet parce que je suis sur moyen courrier. Donc, je fais des vols plus courts. C'est pas le même avion, c'est pas les mêmes destinations. Mais oui, j'ai remis les fesses dans l'avion et j'ai repris ce métier de pilote. Mais parallèlement, je continue toujours à utiliser finalement ce métier et tout ce qui l'englobe comme une source un petit peu d'aspiration créative, parce que autour de l'aviation, c'est, il y a plein de choses qui se passent, c'est un univers qui fascine beaucoup de gens et qui c'est vrai est intéressant, que ce soit les aspects un petit peu technologiques de l'avion, mais aussi les aspects humains qui nous posent un petit peu des questions par rapport au monde d'aujourd'hui. Je pense aussi que l'avion est un symbole, et un beau symbole du monde moderne. Ça va vite, c'est beau, c'est cher, c'est de la technologie. Et donc, tous ces aspects-là nourrissent des intentions créatives, voilà, dans le domaine de l'écriture ou de la photographie.
Donc tu as photographié, tu as écrit, tu as fait un documentaire.
Alors donc ça s'appelle « Sous les ailes de l'hippocampe ». Et il y a un site internet qui s'appelle pareil, sous les ailes de l'hippocampe.com, sans l'apostrophe entre le L et le H de hippocampe. Et j'ai un deuxième site qui s'appelle nomadeduciel.com, là qui montre un petit peu mon travail photographique, ce que j'ai fait avant, et voilà qui récapitule un petit peu ce que je fais en photo. Et sur le site sous les ailes de l'hippocampe.com, on trouve toutes les actus du film et du livre. Et voilà, je souhaiterais préciser aussi donc que c'est un livre qui est sorti je précise aussi que c'est un livre qui est sorti aux éditions Guérin au mois de juin.
Et donc pour terminer sur cet itinéraire canton Paris, j'aimerais juste que tu me fasses la traversée en utilisant des adjectifs qualificatifs par pays traversé, peut-être juste citer le pays et me donner un mot clé que tu retiendrais de cet itinéraire.
Ça peut être un nom.
Ça peut être un nom.
Alors, la Chine, le sud de la Chine, pression. Le plateau tibétain, respiration. Le nord de la Chine, libération. Le Xinjiang, punition. Le Kazakhstan, révélation. La Russie, obsession. Et puis, la fin du voyage, éveil.
Merci, François.
Merci beaucoup à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.